Réplique Alzheimer avec Jean-Claude Amezen et Michel Malherbe. Nous courons sans souci dans le précipice après que nous avons mis quelque chose devant nous pour nous empêcher de le voir, écrivait Pascal. Et sa course fut rapide, puisqu'il est mort à l'âge de 40 ans. Depuis l'époque des pensées, la médecine a fait d'immenses progrès. Nous vivons de plus en plus vieux, et un nouveau précipice s'est ouvert devant nous, la démence sénile. Si le dernier acte reste sanglant, quelque belle que soit la comédie en tout le reste, l'interminable avant-dernier acte devient lui-même un sujet d'épouvante. Et ce que nous cherchons dans nos agitations, nos entreprises, nos querelles, c'est à nous divertir non seulement de la mort à venir, mais aussi du néant qui nous attend peut-être dans cette vie. Pas de divertissement ce matin. Nous allons regarder Alzheimer en face, avec le médecin et chercheur Jean-Claude Amezen et avec le philosophe Michel Malherbe. Votre femme est atteinte de ce mal, Michel Malherbe, et vous venez de consacrer à l'épreuve que vous traversez tous deux un livre absolument capital, Alzheimer, la vie, la mort, la reconnaissance. Arrêtons-nous à ce mot. On demande toujours aux proches des malades si ceux-ci les reconnaissent encore. Et vous dites, dès le début de votre livre, que la vraie question est autre. Elle est, est-ce que moi je la reconnais? Quelle est, Michel Malherbe, la portée existentielle et philosophique de ce renversement?
Pour répondre à votre question, je vais vous rapporter un petit épisode, une expérience. Une expérience que j'ai vécue avec mon épouse, mais que j'ai pu observer chez d'autres patients dans la maison pour personnes désorientées dans laquelle elle se trouve. La patiente est dans son fauteuil roulant, en position semi-couchée. Elle est strictement immobile, elle a les yeux fermés. C'est l'heure du repas, il faut la nourrir. Elle ne se nourrira pas d'elle-même. Il faut la nourrir, il faut donc réussir à la sortir de cet état où elle se trouve. Elle ouvre les yeux, elle ne dormait sans doute pas parce que les yeux sont clairs, le regard est limpide, mais c'est un regard qui se fixe sur vous, qui s'attache à vous, et qui s'attache à vous de telle façon que l'on a l'impression que c'est un regard qui ne saisit plus l'horizon qui est derrière l'objet, derrière ce qu'il saisit. Un regard sans horizon. Or, l'horizon, c'est le champ des possibles pour le regard. C'est ce qui permet au regard de se déplacer, de s'adoucir, de se tempérer, éventuellement de se démultiplier. Il n'y a plus d'horizon. Et l'on est prisonnier de ce regard qui est d'une insistance extrême, je dirais même d'une cruauté extrême. Or, l'horizon, c'est aussi ce dans quoi s'inscrit la perspective. Or, nous sommes dans le monde, nous vivons dans le monde, et chacun d'entre nous, comme disait Leibniz, est une perspective sur le monde. De sorte que, s'il n'y a plus d'horizon, s'il n'y a plus de monde, alors il n'y a plus de perspective. Faites la conclusion, il n'y a plus de sujet. Et c'est un regard sans sujet. C'est un regard vide, c'est le regard de l'absence. C'est le regard de l'absence, et bien évidemment, il faut réussir à donner son repas à cette personne. Il faut donc obtenir d'elle qu'elle ouvre la bouche. On peut recourir à un moyen mécanique qui est extrêmement utilisé. On approche la cuillère de la bouche de manière à déclencher l'ouverture de la bouche et ensuite le réflexe de la nutrition. Mais ça, c'est le mode opératoire. L'important, c'est que ce regard extraordinaire, une brutalité extraordinaire, cesse, que ce ne soit plus le regard de l'absence, et que ce regard se modifie pour que, alors, vous ayez le sentiment, lorsque vous approchez la cuillère de la bouche, que la patiente vous regarde vraiment et vous fait confiance.
Et cela arrive quand même.
Et cela arrive ou n'arrive pas.
Ou n'arrive pas. Et si ça n'arrive pas, alors à ce moment-là...
Il faut recommencer. L'acte de reconnaissance est un acte qu'il faut incessamment répéter, d'autant que ces temps d'absence gagnent progressivement sur les temps de présence du patient ou de la patiente.
Vous dites que lorsque la reconnaissance ne rencontre pas la reconnaissance, elle tombe dans l'assistance.
Oui, parce que
je
me fais une idée de la reconnaissance comme étant une relation, et toute relation véritable suppose la réciprocité. Il n'y a pas ce retour, dans mon exemple, le retour du regard, d'un regard enfin humain de la part de la patiente, s'il n'y a pas ce retour, fut-il aussi minime que ce soit, s'il n'y a pas ce retour, alors le soin, bon, il faut nourrir la personne, c'est donc lui prodiguer un soin, sinon le soin se termine dans la nutrition de la personne, dans mon exemple, et il n'y a pas de réciprocité. Je ne peux pas imaginer un acte de reconnaissance qui ne passe pas par cette réciprocité. J'en ai fait souvent l'expérience avec mon épouse, elle est présente et puis tout à coup, elle a cet acte réflexe de se lisser les lèvres ou de gratter sa jupe, et elle disparaît. Au sens littéral du terme, il n'y a plus personne. Alors on va me dire, peut-être y a-t-il encore une personne, mais mon expérience est de dire il n'y a plus personne, c'est-à-dire il n'y a plus de personne. Et il faut restaurer la personne.
Jean-Claude Amezen,
ce que vous dites qui est très émouvant, c'est qu'il faut restaurer la personne, ce qui sous-entend que la personne est toujours là. Et donc, quand vous parlez de cette reconnaissance, c'est très beau, c'est, au fond, je reconnais, dans ce que vous dites sur la réciprocité, je reconnais qui me reconnaît. Et c'est cette relation de reconnaissance réciproque qui fonde nos relations les uns aux autres. Mais je crois que cette question dépasse de très loin le champ de la maladie d'Alzheimer. Pendant très longtemps, l'autisme a été considéré comme une forteresse vide, c'est-à-dire l'idée que la personne n'était pas là. Et quand Temple Grandin, en 86, a écrit son premier livre, Oliver Sacks a dit « C'est extraordinaire, une voix parle d'un endroit, d'un lieu où on croyait qu'il n'y avait pas de voix. » Il y a eu le locked-in syndrome, le scaphandre et le papillon, l'absence de capacité d'expression faisait qu'on croyait la personne absente. Il y a les états de conscience minimales dans lesquels les personnes ont les yeux ouverts et ne voient pas, et certaines expériences récentes indiquent qu'on peut communiquer, c'est-à-dire que la personne comprend et peut répondre, même si elle n'est pas capable de s'exprimer par imagerie cérébrale. Et donc je crois que il y a deux façons de faire, l'une qui est spontanée, qui est évidente, et qui repose d'ailleurs au-delà du langage sur l'empathie, c'est-à-dire la capacité de vivre en soi les expressions, qui sont d'ailleurs des expressions musculaires, hein, le regard, l'ébauche d'un sourire, le son de la voix, même s'il n'y a pas de langage, fait que intuitivement nous sommes en relation avec l'autre, avant même de le savoir et de le comprendre. Et puis il y a... Et je pense que quand vous parlez de restaurer, il y a poser la réciprocité, poser la vie intérieure de l'autre, même quand elle n'est pas perceptible. Et la posant comme existante, essayer par la relation de la faire apparaître. Donc je crois qu'il y a deux approches, et vous les évoquez dans votre livre. Il y a, je dirais, l'approche objective. Qu'est-ce que je peux percevoir à un moment donné de la présence, de la vie intérieure de l'autre, et puis il y a le fait de poser qu'elle existe, et puis d'essayer de trouver à la fois les moyens et le moment de la faire apparaître.
Mais si vous posez qu'elle existe, n'est-ce pas un postulat, n'est-ce pas une sorte de vœu pieux, Jean-Claude Amezen?
Ce n'est pas un vœu pieux, je pense que le meilleur moyen de faire disparaître la personne, en tout cas dans la relation, c'est de poser qu'elle n'est pas là. Le seul moyen de la faire apparaître, et donc de tenter cette relation dont vous parlez, de recommencer sans cesse, c'est de poser qu'elle est là, c'est de poser tout simplement que ce que je perçois ne peut pas être la réalité entière. Et que donc, de toute façon, je suis obligé de postuler. Et entre postuler que la personne n'est pas là, qui d'une certaine façon contribue à la faire disparaître, ou postuler qu'elle est là, et donc tenter l'effort de la faire apparaître. Je crois qu'il n'y a pas simplement un postulat. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la prophétie autoréalisatrice. Moi, ce qui me frappe, c'est que couper les liens avec une personne qui est dans un état de difficulté à s'exprimer, à entrer en relation, c'est contribuer à la faire disparaître. Donc je pense que c'est nos représentations, et ce qu'il y a de plus difficile, je crois, et ce qui est une des différences entre la maladie d'Alzheimer et d'autres formes de handicap qui peuvent apparaître à la naissance, par exemple, c'est l'idée d'un devenir. C'est-à-dire que la personne n'est plus, n'apparaît plus être ce qu'elle était. Mais il y a des personnes qui, depuis la naissance, sont dans un état où la relation est difficile et où entrer en relation avec la personne, d'une certaine manière, peut contribuer à la faire apparaître.
Michel Malherbe.
Votre réponse est une réponse de nature morale. Alors, je ne suis pas compétent pour les autres maladies. Mon expérience me limite à la maladie d'Alzheimer. C'est une expérience qui est évidemment celle d'un seul homme, et de quelqu'un qui est l'époux de son épouse qui est affecté de cette maladie, mais c'est une expérience qui s'est élargie au fil des années et qui s'est élargie en particulier aux autres résidents qui se trouvent dans la même unité de l'établissement où mon épouse se trouve. En tant que philosophe, je suis un empiriste. Je vois ce que je vois, je touche ce que je touche. La maladie d'Alzheimer m'apparaît objectivement sur un mode behavioriste, m'apparaît objectivement une destruction de la personne et pas simplement une destruction de ses capacités. De sorte que je ne peux pas dire, me semble-t-il, que, à quelque degré que ses capacités soient atteintes, la personne se conserverait derrière et qu'elle aurait encore un mode, même minime, d'expression. Mais toute expression, et Leibniz le disait déjà, toute expression est expression dans le monde. Alors l'expression peut être minime, encore faut-il qu'il y ait une expression pour que je perçoive un sujet qui s'exprime. Ou une personne responsable, à un degré même faible, qui s'exprime. Or, dans certains moments, à certains moments, il n'y a pas d'expression. Alors, il faut tenir compte de deux choses. D'une part, de l'évolution de la maladie. Et la maladie au stade précoce, là, on se trouve encore devant des personnes. Et en quelque sorte, l'acte de reconnaissance peut encore être un acte d'identification. C'est-à-dire, je connais l'autre, je le connais en tant que sujet et personne, je suis avec lui dans une relation intersubjective et interpersonnelle. Et simplement, certains de ses comportements me rendent de l'autre méconnaissable. Mais néanmoins, je fais l'effort d'identification, c'est-à-dire de, malgré cette méconnaissance, de rapporter ses comportements singuliers à cette personne elle-même. Dans le stade avancé de la maladie, les choses me paraissent beaucoup moins certaines. Alors, la difficulté, c'est que, d'une part, je ne peux pas me mettre à la place du patient ou de la patiente elle-même. Je ne peux pas entrer dans ses pensées, dans ses actions. Nul ne peut entrer dans ses pensées, dans ses actions. Le langage est déstructuré, les comportements sont erratiques, mais le langage, on peut se dire, ils ont peut-être du sens. Les mots ont peut-être du sens. Dans le cas de mon épouse, son langage est complètement déstructuré. Il est même phonétiquement déstructuré. Et parfois, elle dit une phrase parfaitement distincte, parfaitement compréhensible, et une phrase qui suggère qu'elle a un moment de lucidité. Cela se perd immédiatement. Donc, on ne peut pas faire l'économie de cette réalité première. C'est pourquoi je suggère que votre réponse est une réponse éthique ou morale. Parce que, bien évidemment, il faut Il faut considérer l'autre comme une personne. Il faut se le représenter comme une personne. Mais ce devoir, c'est le devoir de ma représentation. Et que je doive me représenter l'autre comme une personne, ne me dit pas que l'autre est une personne. Et je me trouve devant la difficulté.
Oui, je crois que vous aviez commencé par ce mot « reconnaître ». Je crois que la véritable question qui est au-delà, à côté du drame de ne plus reconnaître, c'est comment connaître. C'est pour ça que je parlais de handicap mentaux, intellectuels qui peuvent survenir depuis la naissance. Là, la question n'est pas de reconnaître que la personne est différente de ce qu'elle était, c'est comment connaître, comment rentrer en relation avec une personne dont le comportement, dont les modalités d'expression paraissent extrêmement étranges. Et donc je crois qu'à un certain moment, et c'est distinguer peut-être l'évolution d'une maladie de ce qu'est la personne, c'est comment connaître, je dirais sans même reconnaître. Alors, quand vous dites la Je pense qu'il faut distinguer, vous dites que ma position est éthique, elle est éthique, elle est morale, mais elle est aussi, elle a un soubassement. Lorsque nous passons un tiers de notre vie à dormir et à rêver, nos modalités d'expression sont nulles, notre vie intérieure est riche, la rationalité est absente, mais on ne peut pas dire que nous ne vivons pas notre vie intérieure. Et donc pour moi, la question de la personne, c'est ce que Georges Semprun dans l'écriture ou la vie appelle l'expérience de la vie que la vie fait d'elle-même, de soi-même en train de la vivre. Et donc je crois qu'indépendamment de toute modalité d'expression, cette idée que la personne est là, c'est l'idée qu'il y a une vie intérieure, quelle que soit la façon dont elle se manifeste, que ça soit de l'ordre du rêve, que ça soit de l'ordre de la rationalité, et quelles que soient les difficultés d'expression. Et je pense que lorsque nous associons l'impossibilité, c'est pour ça que je parlais de locked-in syndrome, pendant un moment, on a cru, pendant un temps, que parce que les personnes étaient incapables de s'exprimer de quelque façon que ce soit, de réagir, elles étaient paralysées, leur vie intérieure avait disparu. Il se trouve dans le locked-in syndrome, contrairement à d'autres maladies, la vie intérieure est intacte. Et donc notre impossibilité d'imaginer une vie intérieure qui ne s'exprime pas faisait que pendant un temps, on a cru que ces personnes paralysées n'avaient pas de vie intérieure.
Oui, mais vous savez vous-même, Jean-Claude Amezem, que les facultés mentales d'une personne atteinte de la maladie d'ASMR se détériorent considérablement, apraxie, agnosie, aphasie. Et Michel Malherbe dit qu'il est empiriste. Moi, je voudrais citer un philosophe qui ne l'est pas, mais qui, en même temps, analyse notre expérience fondamentale de l'altérité, et d'ailleurs Michel Malherbe le cite au début de son livre, Lévinas. Lévinas, pour lui, l'authentique mode d'être de l'autre n'est pas l'apparence, mais la présence, et la présence fait éclater les apparences. Parce que c'est ce que, d'ailleurs, Lévinas appelle le visage, la manière dont se présente l'autre, dépassant l'idée de l'autre en moi. C'est cela précisément qu'il appelle visage. Le visage déborde l'image qu'il me laisse. Et il le fait par son expression, par le fait qu'il porte sans cesse assistance à sa parole. Mais précisément l'Alzheimer, dans l'Alzheimer, le visage devient totalement inexpressif. Celui que se manifeste ne se porte plus secours à lui-même. On fait l'expérience d'un visage absent, cet oxymore. Et cela est une réalité qu'il faut peut-être, si vous voulez, corriger par la morale, mais cette réalité est incontournable.
Ne croire que ce qu'on voit a été une tentation, y compris de la médecine. C'est pour ça que je vous parlais de l'autisme, dans lequel on a longtemps dit que la personne était absente parce que les modes d'expression et de relation paraissaient totalement déconnectés, ou du locked-in syndrome, où l'expression, toute expression était complètement absente. Donc ce n'est pas parce que dans ces cas on s'est aperçu que croire ce qu'on voyait ne correspondait pas à la réalité que ça veut dire que on perçoit la réalité ailleurs. Mais je crois qu'il faut une très grande prudence en s'apercevant que cet empirisme, ce fait de croire que l'autre et tel qu'il se présente, a été une source d'erreurs successives, y compris dans la médecine.
Michel Malherbe.
La mention que vous faites à la Finkielkraut de Lévinas est intéressante. Et, Lévinas pose un raisonnement qui fait que dans ce rapport extrême qu'est la violence ou la guerre, lorsque l'autre n'est plus que la victime couchée que le bourreau va exécuter, l'autre n'a plus à opposer que son visage. Et ce visage est l'unique et ultime expression de l'autre. C'est l'unique et ultime expression de l'autre. Et Lévinas accorde à cette expression de l'autre une puissance qui est une puissance, la puissance de créer une communauté morale. Grosso modo, de convertir le bourreau au moment où le bourreau est prêt à exécuter sa victime. La question que je me suis posée en posant Lévinas, parce qu'en un certain sens c'est assez proche de ce que je peux dire moi-même sur la reconnaissance, c'est ceci. Je pense que Lévinas convient bien à votre propos. C'est que le visage à lui seul, dans sa nudité, alors même qu'il n'y a plus rien d'autre, est encore expression. Toute présence est une relation. On ne peut pas être présent soi-même si l'autre n'est pas présent. Il n'y a de présence que dans la co-présence. Et donc, si je veux être présent à l'autre, il faut que je rende présent l'autre. Mais que je le rende présent parce qu'il était absent. Alors, vous allez me dire, c'est paradoxal de parler, de dire l'autre. Donc, vous désignez un sujet et vous dites, il est absent. Ça, je ne peux pas dépasser cette limite du langage. Mais il faut que je parvienne à sortir l'autre de cette absence, de l'état de néant dans lequel il se trouve. Et cela ne peut se faire que si l'autre lui-même agit, fait acte. Alors un acte minime, mais un premier acte d'expression. Si l'autre ne fait pas un acte d'expression, je ne peux pas.
Oui, mais justement, d'ailleurs, c'est là que la pensée, la phénoménologie de Lévinas est un peu mise en échec, parce que le pouvoir de l'autre, dit Lévinas, c'est le pouvoir de transcender sans cesse sa propre manifestation. Or, il semblerait que le malade atteint d'Alzheimer ait perdu ce pouvoir-là. Et il est totalement enfermé dans l'image, dans l'image qu'il offre. Donc son visage, au sens lévinassien, n'est plus visage. Il faut trouver ressources en soi, d'autres ressources que celles de l'expérience du visage pour, justement, agir selon le devoir. Michel Mahler.
Oui, moi je résume ceci, et si vous, je pourrais résumer votre propos dans une formule que je trouve assez commode. Quand je vois mon épouse et qu'elle est dans cet état d'absence, ce que je vois, c'est Alzheimer, c'est la maladie. C'est la maladie. Ma question, et c'est une question pratique, c'est pas une question simplement spéculative, parce qu'il faut bien que je fasse quelque chose quand je suis face à elle. Il faut bien que je me comporte d'une certaine façon. Ma question est donc, comment, dans Alzheimer, je suis capable de reconnaître mon épouse, alors même que sa réalité, c'est Alzheimer.
Oui, je crois que Le drame que vous évoquez, je pense que c'est là que des personnes qui ne connaissaient pas et qui n'ont pas à reconnaître, mais simplement à essayer de connaître, peuvent apporter une contribution, y compris une contribution à la personne. Parce que, je veux dire, sentir la perplexité, la tristesse, l'angoisse de qui ne me reconnaît pas, si je peux le percevoir, c'est une source d'angoisse. Voir quelqu'un qui apprend à me connaître sans être profondément perturbé par le fait de ne pas me reconnaître. Donc je pense qu'il y a, le rôle de la connaissance, en fait, de la relation. Et je crois encore une fois que le fait que le visage soit inexpressif ou pas, le problème de la maladie d'Alzheimer jusqu'aujourd'hui, c'est qu'on ne s'en réveille pas. Mais il y a des personnes qui étaient dans des états de conscience minimale, les yeux ouverts, ne fixant rien, qui se sont réveillées, il n'y en a pas beaucoup, et qui racontaient que dans cet état-là, elles entendaient, elles comprenaient, et on parlait d'elles comme si elles étaient absentes. Et donc je crois que il y a des situations dans lesquelles la personne se transforme, et on s'aperçoit rétrospectivement qu'elle était là, même si elle était là sous une autre forme. Nous-mêmes sommes là, encore une fois, pendant que nous rêvons la nuit, nous ne sommes pas autres. C'est un autre état de notre personne. La maladie Alzheimer, pour l'instant, on ne s'en réveille pas. Et donc, cette impression que la personne disparaît est d'autant plus grande que personne n'est revenu pour nous dire, contrairement à d'autres perturbations profondes des modalités d'expression, ce qu'il se passait. Lorsque, il y a une particularité, vous le disiez avant la fin, qui m'a toujours frappé, c'est que pendant de longues phases, la maladie d'Alzheimer est intermittente. Et ce qui me frappe beaucoup, c'est que pendant ces phases d'intermittence, les gens ont tendance à penser que l'état d'absence le plus grand est l'état continuel. Moi, je me rappelle d'une expérience personnelle, hein, où on était j'étais en Pologne avec ma mère, en voyage, et on rencontre un couple de diplomates qui étaient de ses amis. Et puis, la femme parle devant son mari qui était assis, totalement inexpressif à la table, de lui en disant « il n'est plus là ». Et puis ma mère part avec sa femme pour parler. Et je reste en face de ce monsieur. Et ce monsieur me regarde avec un regard, comme vous disiez, totalement absent. Et puis d'un seul coup, il se réveille. Et il commence à me parler tout à fait normalement. Il me demande comment je trouve le pays, etc. Et puis au bout d'un moment, de nouveau, il est totalement absent. Et puis, au moment de partir, il me fait un signe. Alors qu'il est toujours dans cette absence, il me fait un signe. En me montrant la fenêtre. Et en fait, il était en train de me montrer que notre taxi était arrivé. Et donc, ce qui m'avait beaucoup frappé, c'est que dans cet état intermittent qui était profondément perturbant, un état de lucidité tout à fait normal, qui était sans doute un stade de début, et une absence complète, sa femme nous le présentait devant lui comme étant totalement absent. Donc je pense qu'il y a à la fois cette difficulté et il y a cette intermittence qui est extrêmement perturbante. Ce qui me préoccupe, c'est indépendamment de la tragédie que nous vivons de voir une personne qui semble ne pas nous reconnaître, y a-t-il des moyens de rendre la vie de cette personne la plus sereine, la plus heureuse ou la plus joyeuse possible, quelles que soient ses capacités? Je pense aux tout petits enfants. Nous avons tous été de tout petits enfants dont les capacités d'expression étaient extrêmement rudimentaires, mais on s'occupait d'essayer de nous rendre heureux.
Michel Malherbe, j'aurais une question à poser ensuite.
Il me semble que vous raisonnez par analogie. Il y a une différence fondamentale entre l'enfance et la personne Alzheimer, c'est que l'enfant a un avenir et la personne à Alzheimer...
Mais est-ce que nous devons, lorsque nous pensons au bien-être d'une personne, penser en termes d'avenir ou en termes de présent?
Mais je puis essayer de penser. Quand je suis présent auprès de mon épouse et des autres personnes qui sont dans l'unité de cet établissement, bien évidemment, j'essaierai d'engager la conversation avec eux quand ils parlent encore. J'essaierai de leur tenir la main. Et en ce sens, un établissement pour personnes désorientées, c'est pas la cour des miracles. Mais je pense qu'il faut se garder de trop raisonner par analogie parce que, dans le cas d'Alzheimer, je suis pas médecin, mais... Le cerveau est quand même détruit ou en partie détruit. Il y a une réalité physique de la maladie.
Mais dans les cas que j'évoquais, état de conscience minimale, Logdin syndrome, etc., une partie du cerveau est détruite. C'est ce qui explique dans l'aphasie, dans l'hémiplégie, dans tous les situations que vous citez, il est évident qu'une partie du cerveau est altérée. La question est, au fond... Comment est-ce que la personne, dans cet état d'altération du cerveau, peut, j'allais dire, encore une fois, je parlais du sommeil et du rêve. Pendant le sommeil et le rêve, une partie de l'activité de notre cerveau est bloquée. Bien c'est sûr. Pour ça que nous ne vivons pas de la même façon qu'à l'état de veille.
Il y a une présence physique de la maladie. La maladie, elle se voit, elle s'entend, elle se touche. On ne peut pas faire l'économie de la réalité de la maladie, ne serait-ce que pour déterminer la nature du soin. Je raconte dans ce livre un petit épisode où il s'agit toujours de donner le goûter à une personne et où intervient une jeune aide-soignante. Elle fait preuve d'une sollicitude admirable. Ça n'était pas une sollicitude de commande. Et puis ensuite, elle approche la cuillère de la bouche. Et il y a manifestement un échange se crée. Pour moi, l'aide-soignante a fait cette démarche de reconnaissance, c'est-à-dire elle a sollicité. Et on ne peut obtenir un acte d'expression de l'autre que si on l'exige de l'autre. Il faut le demander, il faut presser l'autre. Comment cela peut-il se faire? Je n'en sais strictement rien. Mais s'il n'y a pas cette réponse effective de l'autre, encore une fois, si minime soit-elle, il n'y a pas de relation.
Alors, là, je voudrais intervenir sur un autre point. Vous avez dit, Jean-Claude Amelzen, qu'il y avait des intermittences dans la maladie. Et je voudrais citer un exemple tiré de votre livre, Michel Malherbe. Vous parlez à plusieurs reprises de celui que vous appelez l'homme ou le monsieur distingué. Et vous dites à un moment donné, il n'a plus d'énergie, il n'a plus d'appétit, plus rien ne tend sa vie, il s'est opéré en lui une sorte de relâchement constitutif, une sorte d'effondrement intime où il se défait. À ses pieds, une flaque. J'éprouve de la colère, du ressentiment même. Qu'un homme soit perdu aux autres, soit, mais qu'il se perde à lui-même, je ne connais pas de plus grand mal. Qu'est-ce que ce monde où un homme peut être une offense à lui-même? Mais il a des moments de conscience, ce monsieur distingué. Et quand, effectivement, il est lucide, sa lucidité est terrible. Il dit « je suis foutu ». Il dit « mon Dieu, venez-moi en aide. Monsieur, venez-moi en aide. Mon Dieu, je ne suis plus rien, je n'ai plus de boue. » Telle autre patiente dit « je suis au fond du trou ». Et là, je voudrais citer un autre exemple que j'ai trouvé dans le livre de Paulina Dallmayr, « Je vous tiendrai la main, euthanasie, travaux pratiques ». Une femme, atteinte précocement de la maladie d'ASMR, écrit à un médecin belge qui pratique l'euthanasie. « Je vis sans espoir, sans passé, sans mémoire, sans avenir. J'ai la maladie d'Alzheimer. Je perds peu à peu la parole. Plus personne ne m'adresse une gentille parole ou un encouragement. Mon fils m'a abandonné. Mon mari n'accepte pas ma maladie. Je meurs un peu chaque jour. Et à la fin, elle dit « Je pense au suicide assisté. J'ai fait ma demande parce que je suis fatigué. J'ai fait mon devoir envers la société. Tout le monde peut attraper Alzheimer, riche ou pauvre. » Le médecin ne veut pas donner suite et il reçoit une lettre du mari, désespéré de voir sa femme dans cet état plein de douleur, et qu'il se sent de moins en moins capable de la soigner. « Que puis-je faire ?» demande-t-il. Et sur la lettre, une ligne écrite maladroitement en lettres majuscules, grosses et boiteuses, qui se bousculent les unes les autres pour tomber en masse presque illisible avant le point final. C'est la femme. « Je suis malheureuse, je souffre. Pourquoi tout ça ? Je demande l'euthanasie. » Il y a une chose dont, que l'on constate, en tout cas, c'est que les malades atteints d'Alzheimer sombrent souvent dans des dépressions terribles. Et là, ils disent quelque chose. Hein. Ils demandent à être reconnus. Et que faire face à cette dépression ? Que faire face à cette demande ?
Mais ce que vous lisiez qui est tragique, plus personne ne m'adresse la parole, mon fils m'a abandonné. Donc je veux dire, cette impression que je décrivais, que parce que la personne n'est plus la personne qu'on connaissait, en fait, il y a une espèce de solitude qui se crée. Il y a deux choses, je pense, qui sont importantes et pour lesquelles il y a beaucoup d'expériences personnelles. C'est la solitude. Et la solitude, pour toute personne, entraîne une forme de dépression, de déclin. Et puis, il y a la question de la sérénité ou de la joie. C'est-à-dire que, pour les proches, c'est une tragédie. Et comment faire en sorte que la personne ne sente pas le reflet de cette tragédie? C'est-à-dire qu'elle soit dans un environnement tragique, sentir que je suis source de tragédie, même si je le perçois de manière confuse, n'est pas la même chose que d'être dans une atmosphère sereine ou joyeuse. Donc comment construire, malgré la tragédie, une atmosphère joyeuse et sereine? Et c'est là, encore une fois, je pense que la société, des personnes qui ne sont pas des proches, peuvent apporter quelque chose.
Cette femme ne souffre pas simplement d'être repoussée par ses proches, elle souffre de la maladie elle-même et de la détérioration qu'elle constate.
Mais elle insiste.
C'est ça quand même que ressentent les malades d'Alzheimer lorsqu'on leur annonce leur maladie.
Mais elle insiste là-dessus. Toute maladie est source de... Beaucoup de maladies sont des sources de souffrance. Beaucoup de maladies ne sont pas des sources d'abandon et de plaintes d'abandon. Donc je crois que dans ce que vous lisiez, en tout cas, il y avait cette intrication étroite entre je suis en train de vivre quelque chose d'extraordinairement difficile et douloureux et je n'ai plus personne ou plus grand monde autour de moi.
Michel Malherbe.
L'exemple de cette femme dont vous venez de lire le témoignage, cette personne est encore au stade
oui,
précoce de la maladie, précoce. Puisqu'elle est capable d'anticiper son futur. Il est évident que quand on a affaire aux personnes dans les établissements qui sont à un stade beaucoup plus avancé, la mémoire étant à ce point altérée qu'ils ne sont plus capables d'anticiper. Et je fréquente depuis 6 ans très régulièrement, presque tous les jours, l'établissement où se trouve mon épouse. J'ai entendu « je suis au fond d'un trou », mais je n'ai jamais entendu quelqu'un dire « je veux mourir ». Et alors, pour la solitude, je peux juste dire 2 choses. Mon épouse, dans son état actuel, est toujours souriante. Et je me pose la question, son sourire était une marque de de stupidité. La maladie l'a rendue stupide, au sens littéral du terme. Ou est-ce, de sa part, de la grandeur d'âme? Parce qu'être serein ou sereine dans une situation pareille, cela suppose de la grandeur d'âme. Et ça, c'est son état présent. Et quand elle était encore consciente, je raconte l'épisode de son agenda. Elle lutte contre la perte de mémoire. Elle noircit son agenda. Et puis tout à coup, elle commence à entourer de rouge ce qu'elle écrit. Et puis ensuite, elle surligne en rouge ce qu'elle a entouré en rouge. Et ensuite, elle entoure en rouge la date du jour. Et ensuite, elle dit « c'est aujourd'hui ». Et ensuite, il n'y a plus rien d'écrit. Ça, c'est la solitude absolue. Et c'est une solitude intérieure. C'est, comme vous le suggériez, c'est bien plus dramatique que la solitude que cause le regard de l'autre.
Mais justement, comment votre femme a-t-elle réagi, Michel Malherbe, lorsque la maladie lui a été annoncée, lorsqu'elle était encore consciente? Est-ce qu'elle est tombée dans une profonde dépression, comme beaucoup de malades atteinte la forme encore légère? Certains d'entre eux sont cités dans le livre de Bernard Croisil, Alzheimer, Que savoir, que craindre, qu'espérer, J'ai honte de ce que je suis devenu, Je suis au tombeau, etc., etc. Est-ce que c'est ce qui lui est arrivé? Comment s'est passée cette consultation mémoire où tout d'un coup le verdict est tombé sur elle?
Michel, le verdict n'est pas tombé sur elle brutalement, et à mon sens, le verdict tombe rarement brutalement, même s'il y a une force du verdict. Et mon épouse était dans une attitude de déni. Et elle ne cessait de dire « je suis dépressive », et elle ajoutait « c'est toi qui es responsable ». Mécanisme de défense qui consiste à transférer la responsabilité de l'état vécu sur l'autre. Et je dois dire que avant de réussir à obtenir d'elle qu'elle accepte de consulter un médecin gériatre, il a fallu beaucoup de temps et beaucoup de ruses. De sorte qu'elle n'a consulté que alors qu'elle était déjà à un stade relativement avancé de la maladie. La gériatre a bien fait les choses. Elle lui a dit qu'elle avait la maladie d'Alzheimer et elle lui a dit « vous ne conduisez plus votre voiture ». Mon épouse aimait beaucoup conduire sa voiture. Et quand vous perdez la mémoire, et c'est d'abord la mémoire immédiate qui est affectée, vous entendez dire vous avez la maladie d'Alzheimer. Mais si votre faculté d'enregistrement est affaiblie, au bout d'une semaine, d'un mois, de deux mois...
Vous avez oublié.
Vous avez oublié. En revanche, quelque chose beaucoup plus inscrit dans l'habitude, comme conduire sa voiture. Alors là, il fallait que je cache les clés.
Oui, parce qu'il y a beaucoup de formes de mémoire. Il y a la mémoire consciente, il y a la mémoire sémantique, le sens des mots, le sens des lieux. Il y a la mémoire autobiographique, ce que j'ai vécu. Et il y a ce qu'on appelle la mémoire procédurale. Avoir appris à conduire, avoir appris à parler, avoir appris à lire. Et celle-là passe par des mécanismes extrêmement différents. Et donc, en effet, une partie de la mémoire peut ne plus être soit capable de fonctionner, soit de s'exprimer, mais une autre est-ce. Moi, je pense qu'il y a une profonde réflexion à faire sur la notion de service qu'on rend à une personne lorsqu'on lui annonce quelque chose de tragique pour lequel il n'y a rien à faire. Et donc, je ne suis pas sûr, et en tout cas, il y a une profonde réflexion à faire. Arnold Munich disait que prédire quand ce qu'on prédit est mauvais, c'est médire. Et je crois que cette tendance à vouloir annoncer à tout prix le service rendu, j'ai découvert ce que vous avez, je vous le dis, n'est pas forcément... C'est en éthique biomédicale depuis longtemps, il y a le droit de savoir si on veut savoir, et il y a le droit de ne pas savoir. Et donc comment faire en sorte dans ces consultations de répondre à ce que veut savoir la personne, et pas de lui imposer un savoir qui, pour lequel en plus on n'offre pas de solution en termes médicaux. Donc je crois qu'il y a cette idée que la vérité est très importante à dire, dépend du contexte, de ce qu'on peut faire et du respect de ce que la personne souhaite faire. On peut très bien recommander à une personne de ne pas conduire sans lui dire qu'elle a une maladie Alzheimer. Et j'ai vu chez un certain nombre de personnes le choc ou le poids ou la dépression d'apprendre qu'on a une maladie incurable, sachant qu'on vivrait peut-être beaucoup mieux, y compris le développement de cette maladie, si on n'avait pas dès le début. Et lorsque, en plus, on se souvient, quand on n'est pas en train d'oublier, parce qu'à ce moment, le fait de le savoir ou pas, de l'entendre ou pas, n'a pas une grande importance, de savoir que le destin inéluctablement conduit dans la maladie. Donc je pense qu'il y a une vraie réflexion sur accompagner, aider, donner l'environnement qui soit le plus favorable à la personne est une chose, annoncer en soi, ça peut soit n'avoir aucun sens, soit même être source de douleur.
Mais en même temps, on le sait aujourd'hui, les lésions se développent bien avant le stade clinique de la démence, ce qui fait que on s'oriente peut-être soit vers le dépistage de la maladie d'Alzheimer, étant donné le nombre de malades, soit vers un diagnostic précoce, ce qui est absolument cauchemardesque. Donc ça va dans un sens tout à fait inverse de celui que vous préconisez, Jean-Claude Amezen.
Tout à fait, ou en tout cas ça demande une grande réflexion, annoncée 20 ans à l'avance. Oui. Bon, et ça existe dans certaines maladies, et ça fait l'objet d'énormément de précautions. Il y a une maladie qui s'appelle la maladie de Huntington, qui entraîne une dégénérescence qui est héréditaire, qui entraîne une dégénérescence et cérébrale et la mort. Et lorsque des personnes veulent savoir si elles portent la séquence génétique qui déclenchera 20 ans plus tard la maladie, il y a tout un processus qui est mis en marche pour être sûr que la personne veut vraiment savoir. Et quand des jeunes viennent à la consultation d'Alexandra Dur à la Pitié-Salpêtrière pour savoir, pour demander, eh bien, une fois que tout ce processus de réflexion a été enclenché, la moitié décide qu'après tout, ils préfèrent ne pas savoir. Et donc, je crois qu'il y a vraiment plus ce qu'on annonce est distant et plus c'est inéluctable et plus il faut véritablement savoir que ce qu'on veut, c'est rendre service à la personne et non pas lui imposer une vérité. Et comme vous le dites, si des pistes prometteuses un jour pour cette maladie comme dans d'autres se développent, cette question deviendra une question importante, mais à laquelle il faudra profondément
réfléchir. Et pour le moment, ces pistes ne se développent pas.
Alors pour l'instant, c'est de la recherche. La recherche, c'est tous les espoirs sont possibles, mais aucune réalité pour l'instant n'indique qu'on est en train d'y arriver. Et donc pour l'instant, il n'y a pas de traitement. Il y a des recherches, mais il n'y a pas de traitement. D'où l'importance de l'accompagnement, de l'environnement, de la relation, puisqu'il n'y a aucune autre possibilité de rendre la vie des personnes. D'où ce qui m'avait beaucoup frappé, d'où le rôle, parmi cet environnement, de l'art, de ce que la musique, la peinture peut apporter, parce que l'art fait appel à quelque chose de profondément émotionnel en nous. Et les émotions, d'une certaine façon, ramène la mémoire ou la présence pendant un temps, la font apparaître.
L'art, c'est notamment l'atelier de peinture de l'arbre à main à l'hôpital Georges Clémenceau de Chanqueuil dans l'Essonne. C'est organisé par un artiste plasticien, François Arnold. Et ce sont des malades d'Alzheimer qui, une fois par semaine, viennent peindre. Un livre a été tiré de cette expérience, Les couleurs de l'oubli. Vous avez écrit quelques chapitres de ce livre. Vous pensez que c'est ce genre d'expérience-là qu'il faudrait développer, multiplier, Jean-Claude Amédée?
Oui, je pense, parce que l'art fait appel aux émotions, l'art fait appel à la personne, quelle que soit la façon dont elle s'y implique. Et moi, ce qui m'a beaucoup frappé, parce que encore une fois, dans cette situation tragique, c'est la joie qui peut être apportée dans ces ateliers, c'est-à-dire le fait que les personnes se mettent à rire, le fait que les personnes peignent, et ce qui m'a beaucoup frappé, beaucoup de ces tableaux sont joyeux, sont peints de couleurs joyeuses. Et donc il y a un contraste entre la tragédie que l'état de ces personnes provoque à l'égard de pour ceux qui les connaissent, et puis le fait que les approcher comme si elles étaient telles qu'elles étaient, ce que fait François Arnold. C'est-à-dire sans se préoccuper du fait que leur comportement est bizarre, leur comportement est intermittent, permet de créer quelque chose qui est, pendant un temps, source de joie. Et ce qui m'avait frappé, d'ailleurs, c'est que c'était, comme vous le disiez, une fois par semaine, et pas plus d'une fois par semaine. Et c'est très difficile, dans les hôpitaux gériatriques, dans ces lieux, d'introduire ce qui n'est pas, je dirais, de l'ordre du soin classiquement, de l'ordre de la médecine, mais d'introduire ce qui vient de l'extérieur, ce qui vient de la société. Oliver Sacks a été un des premiers, dans les années 1970, ça a commencé maintenant en France, à utiliser la musique. Et il disait que lorsqu'il voyait des personnes atteintes de maladie d'Alzheimer se mettre à rire, à pleurer, à chanter ou à battre dans les mains, il était persuadé que l'idée que leur identité ou leur moi disparaissait était une illusion. Donc la question, c'est un peu ce que vous disiez, c'est comment refaire surgir la personne dans la relation. Mais je pense que lorsqu'elle ressurgit dans la relation, c'est qu'elle est présente le reste du temps, hors de la relation, dans d'autres formes de relations. Donc je crois, je cite Aaron Appelfeld qui dit que seul l'art a le pouvoir de tirer la souffrance de l'abîme. Je crois qu'il y a quelque chose dans l'approche artistique qui est contre-intuitive, hein, parce que nous sommes rationnels, nous voulons aider, nous voulons apporter les soins. Il y a quelque chose dans l'approche artistique qui restitue la personne, qui touche profondément la personne.
Dans
l'établissement où se trouve mon épouse, il y a des ateliers qui est un établissement pour personnes désorientées, hein, uniquement pour personnes désorientées. Il y a des ateliers de peinture, et il y a des ateliers de musique, et puis il y a des animations diverses et variées. Le cas de la peinture est intéressant parce que cela suppose que la personne est encore capable de tenir un pinceau et d'avoir une intention, un dessin, D-E-2-S-E-I-N, avant de dessiner. Et ce qui est très intéressant dans la méthodologie du plasticien, c'est qu'il suggère bien que c'est une relation interactive avec ces personnes. Il faut franchir cet obstacle qu'est la page blanche. Et par conséquent, le peintre va commencer à dessiner sur la feuille, de telle sorte que la personne ensuite se prenne au jeu et se prenne à la peinture, hein, au dessin et à la peinture. Ça suppose également que la personne soit encore capable de faire la différence entre le dessin et la couleur. Donc, la peinture, c'est encore une activité assez évoluée, si je puis dire. Avec la musique, on arrive à quelque chose de plus minimal. J'ai assisté à plusieurs reprises à des séances, à des ateliers musique. 6 personnes, des tambourins, des appareils de percussion, et on demande à la personne de frapper la peau du tambourin. Dans le cas de mon épouse, il y avait un xylophone. J'ai pris le bras, j'ai tapé avec son bras la touche du xylophone. Et je lui ai dit, vas-y, tape, frappe. Elle n'a pas frappé. Elle a lissé, c'est-à-dire, Elle a fait ce que la maladie lui fait faire constamment, cette activité de lycée. Moi, je comprends cela comme un problème de relation avec la réalité du monde. Parce que le contact, mais c'est la même chose dans la peinture, hein, puisque on manipule une matière dans la peinture. Ce qui me paraît dramatique dans Alzheimer, il y a la perte de soi, mais il y a aussi la perte du monde. Et je suis frappé par le propos du monsieur distingué qui dit « mon Dieu, mais que j'ai mal, mon Dieu, dites-moi où j'ai mal ». Il n'est plus capable de s'incorporer dans son corps, consciemment. Et à partir du moment où on n'est pas capable de s'incorporer dans son corps, on est désorienté dans l'espace et dans le temps. On n'a plus de contact avec le monde.
On a un autre contact avec le monde, je pense. On a un autre contact. Désorienté, c'est une forme d'orientation. C'est pas une absence d'orientation. Donc je pense encore une fois que le caractère tragique de cette maladie, comme beaucoup d'autres handicaps mentaux, comportementaux, relationnels, je pense doit nous amener, encore une fois, à essayer d'apporter ce que nous croyons le plus propice. Vous disiez tout à l'heure... Mon épouse sourit, je ne sais pas si c'est un vrai sourire, mais si elle avait une expression de peur, vous penseriez que c'est une expression de peur. Et donc je crois que l'expression dit quelque chose, elle est trompeuse, mais si l'expression est joyeuse, ça traduit sans doute quelque chose.
Eh bien, j'espère que vous avez raison, Jean-Claude Amezen. Je lirai quand même pour finir un dernier extrait du livre de Michel Malherbe. « Ce n'est pas une tragédie, c'est un scandale ». Comment accepter qu'un être humain n'ait d'autre activité que de faire des plis ou de gratter son vêtement? Oui, appartient-il à un être humain de partager ses jours, que dis-je, ses années entre le lit et le fauteuil, et d'y rester sans bouger, et de ne prendre de la main la cuillère avec laquelle on le nourrit, et de bégayer des sons en guise de langage? L'écart est trop grand entre ce constat dégradant et cette valeur d'être dans laquelle je n'ai cessé de la tenir à bon droit. Merci en tout cas à tous deux. Michel Malherbe, je rappelle le titre de votre livre très important, Alzheimer, la vie, la mort, la reconnaissance. Ce livre est publié chez Vrin, Les couleurs de l'oubli, le livre qui relate cette expérience picturale à l'hôpital Georges Clémenceau de Chancueil. Les couleurs de l'oubli, donc, livre de François Arnold et Jean-Claude Amezen, est publié aux éditions de l'Atelier. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre Emmanuel Lévinas et les préoccupations de l'heure. Mes invités seront Dan Arbib et François-David Seba. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut avec la collaboration d'Anne-Catherine Lechard et Didier Lagarde. À la technique aujourd'hui, Pierrick Charles. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannenet. Au long des âges, des emblèmes pour la France avec Michel Pastoureau.